Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
J'ai été chez le docteur qui m'a dit « Écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins, vous avez un cancer. » Et là, c'est la chape de plomb, c'est plus un mot, je ne pouvais plus rien dire. On m'a dit « Écoutez, il y a 95% du testicule qui est infecté, il faut l'enlever. » Donc déjà, pour un homme, vous demandez ça touche une grosse partie de votre virilité. Et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont m'enlever le testicule, qu'est-ce que je vais devenir?
2 jours après l'annonce de la maladie, j'avais déjà commencé la chimiothérapie. La première question que j'ai posée, est-ce que je vais perdre ma barbe? Et ils m'ont dit, c'est très probable.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre ces derniers mois, Wissam?
C'était surtout de me voir complètement se transformer en une personne qui est très faible, amaigrie, pâle, dépourvue un peu de son identité visuelle. Donc ça, c'était très dur.
Je pose des questions. Est-ce que je suis toujours viril? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Est-ce que je vais conserver ma capacité érectile, ma capacité à atteindre un orgasme?
Moi, je lui ai tout de suite dit que c'était pas ça qui faisait sa virilité, que ça ne le changeait pas.
Et vous en avez entendu parler du cancer des testicules?
Jamais. Pour moi, le cancer du poumon existait, le cancer de la prostate, voilà, pas du testicule.
Alors, j'avoue qu'on n'en parle jamais. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un thème inédit. Ce sont 3 hommes à qui nous allons donner la parole aujourd'hui, 3 héros. Jonathan, Sébastien et Wissam se sont battus contre des maladies dont on parle très peu, des maladies taboues qui touchent les hommes et leur virilité. Merci infiniment à vous 3 pour votre confiance.
Merci.
Ça me touche beaucoup que vous acceptiez de parler de ce sujet intime. Je vous présente Florian Ferreri aujourd'hui qui va nous accompagner, qui est professeur en psychiatrie et qui va aider également ceux qui nous regardent, qui se poseraient les mêmes questions de vous, à dépasser peut-être leurs angoisses. Jonathan, on va tout de suite commencer avec cette photo. Je sais que c'est une photo qui a beaucoup de sens pour vous. Oh, très belle photo, avec la même chemise qu'aujourd'hui?
Ouais, presque, ouais, c'est le clin d'œil.
Beau gosse. Expliquez-moi ce que c'est que cette photo.
Alors cette photo, elle a beaucoup de sens parce que cette photo, elle a été prise 3-4 jours avant le début de ma chimiothérapie. J'apprenais quelques jours avant que j'étais atteint d'un cancer. Et les médecins m'ont dit, voilà, il faut commencer la chimiothérapie le plus rapidement possible. Et je me refusais à l'idée de commencer cette chimio aussi vite. Et j'ai dit non, il faut que je parte en vacances, il faut que je me vide l'esprit. Et surtout, je savais, Loïs était à côté de moi, le médecin en face, je savais que j'allais faire ma demande en mariage. Loïs ne le savait pas, elle ne comprenait pas ma réaction. Non, fais ta chimio, les vacances, ce sera plus tard. Et moi, je savais que c'était le moment de lui demander sa main. Même si j'en avais envie, mais c'était le moment, voilà.
Vous êtes ému en la voyant, cette photo?
Ah oui, complètement, oui, ouais. Complètement.
De quel cancer avez-vous souffert?
Cancer du testicule.
D'accord, je vous présente Sébastien et Wissam qui rencontraient les mêmes difficultés que vous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et encore une fois, merci. On va revenir un petit peu à l'origine de votre histoire, Jonathan, avant que vous me racontiez ce qui s'est passé. Donc, l'histoire que vous allez nous raconter, c'est celle d'un jeune homme dans la fleur de l'âge qui a vu bouleverser sa vie du jour au lendemain. On va faire connaissance avec vous et avec votre femme également à travers ces quelques photos que vous nous avez confiées.
Jonathan a toujours été curieux et très actif. Avec son frère jumeau, il consacre dès l'âge de 6 ans tout son temps libre à la musique. Parallèlement à la chanson, il aime partager du temps avec son frère Anthony. En effet, ils sont inséparables. Ce qui n'empêche pourtant pas le jeune homme de rencontrer Loïs quelques années plus tard, à Nancy. C'est un véritable coup de foudre et des projets plein la tête, les deux amoureux filent le parfait amour durant 8 ans. Mais un terrible diagnostic va jeter un voile sur leur avenir.
Vous formez un très beau couple.
Merci.
Avec votre jumeau aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ça a été quoi les premiers symptômes, dites-moi?
Alors, on est au début de l'année 2021. Alors, je ressens d'abord une fatigue qui est extrême.
Une fatigue.
Une fatigue extrême, mais que je différencie d'une fatigue de sommeil. Plutôt comme si on puisait de l'énergie. Mais pour moi, voilà, c'était juste ça.
Vous en parlez à quelqu'un à cette époque-là?
Non, pas du tout. J'en parle au moment où, parallèlement et sans faire le lien, j'ai des douleurs au niveau de l'aine qui sont de plus en plus intenses. Après, je croise mes jambes, je mets des jeans qui sont plutôt moulants. mais de plus en plus chaque semaine, voilà.
Pas au niveau du testicule, vraiment non, au niveau de
l'aine. Vraiment au niveau de l'aine. C'est vraiment une douleur au niveau de l'aine. Et je comprends effectivement un peu plus tard que cette douleur, elle part des testicules. Et un soir, je me palpe les testicules et je sens une grosseur au niveau du testicule droit. Une grosseur, quand je parle de grosseur, c'est trois fois la taille du testicule normal.
Ah oui, donc c'est pas une grosseur, c'est carrément quelque chose d'impressionnant.
Tout à fait, tout à fait. Et cette douleur partait en fait de là, et c'est d'où la douleur dans l'aine.
Vous comprenez tout de suite, enfin vous comprenez qu'il y a un problème, mais est-ce que vous vous dites tout de suite que ça peut être grave ?
Pas du tout. Je comprends que il y a quelque chose d'anormal, oui, mais je pense pas au cancer. Je vais sur Internet. Effectivement, je vois tumeur, je vois cancer, je vois torsion du testicule, je vois un tas de choses, mais je me dis, mais non, c'est rien, c'est une inflammation, et puis voilà, c'est tout.
Vous en parlez à votre compagne ?
Ouais, le soir même, j'en parle à ma compagne, parce que ça me travaille un petit peu, elle fait la palpation elle aussi, parce que j'avais besoin aussi que, voilà, qu'on confirme qu'il y a quelque chose, enfin voilà. Et elle me dit, oui, il y a un souci. Et là, je décide de consulter un médecin, mon médecin traitant, rapidement. Ouais.
Qu'est-ce qu'il vous dit ?
Il palpe. Il ne me dit pas grand-chose, il palpe, il sent qu'il y a quelque chose. Mais je crois qu'il n'était pas, alors je le sais maintenant, mais il n'était pas dans l'alerte. Il ne me parlait pas de cancer, il ne me parlait pas de tumeur. Voilà, on va faire une échographie, pas de souci, pour l'instant on ne se pose pas de questions, on va faire l'échographie et on verra. Mais l'échographie était quand même précipitée. Deux, trois jours après, je faisais l'échographie.
Oui.
Voilà.
Et vous en aviez entendu parler du cancer des testicules ?
Jamais. Pour moi, voilà, pour moi le cancer du poumon existait, le cancer de la prostate... le cancer de la gorge, voilà, mais pas du testicule.
Alors, j'avoue qu'on n'en parle jamais, même sur ce plateau. Ça fait quand même 6 ans maintenant qu'on est ensemble. On n'a jamais parlé de ce sujet. Hein. C'est encore un tabou, et pourquoi ?
Alors, c'est un tabou. Alors, c'est un cancer rare aussi, donc on en parle un peu moins que d'autres cancers. Mais effectivement, les hommes ont du mal à... n'ont pas l'habitude de se faire dépister pour les cancers, encore moins les cancers du testicule, parce que ça touche à l'intime. Et c'est une des raisons qui explique ça.
Comment vous l'avez vécu ? Alors, donc, il y a eu une échographie, vous m'avez dit, quelques jours après. Est-ce que tout de suite, on vous a annoncé les choses ?
Alors, moi, je passe l'échographie. Alors, vous êtes sur la table, c'est une dame qui passe l'échographie, puis vous avez un écran. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour voir qu'effectivement, sur l'image testicule, qu'il y avait une bien différence entre les deux. Elle me dit, il y a quelque chose, mais tout dans la retenue. Et me dit rapidement qu'elle va consulter le médecin. Le médecin arrive. C'est la première fois que j'entends le terme tumeur. Et là, je fonds en larmes dans la salle, parce que pour moi, tumeur égale cancer égale, oui. Égale le reste.
Donc, il vous a confirmé les choses ? Il a prononcé ce mot ?
Il parle de tumeur.
Ouais, c'est ça.
Peut être bénigne ou maligne, mais tout est allé très, très vite. Tout s'est accéléré. Lorsqu'il me parlait, il évoquait la tumeur. C'était tout de suite, on fait un scanner, on vérifie ce qui se passe. Moi, j'étais complètement dans le
déni. Vous avez senti une urgence, quoi.
Complètement, mais ouais. Complètement. Dès lors qu'il a mis la main sur l'épaule, parce que j'étais tellement... non, on ne le fait pas tout de suite, on attend. Il m'a dit, non, il faut le faire maintenant, on perd du temps si c'est un cancer. Enfin, une tumeur, si c'est plus...
Vous avez été pris dans un tourbillon en quelques
complètement.
Jours, quoi.
Complètement, arrêté en plein vol.
Comment a réagi votre compagne ?
Elle n'y croyait pas. Quand je lui ai dit que j'étais à l'hôpital, qu'on venait de me faire une échographie, qu'on parlait de tumeur, voilà, j'étais en larmes. Elle m'a dit mais non, c'est peut-être pas ça. C'est ne t'inquiète pas, tu vas faire, on va voir. Ne t'inquiète pas.
On va accueillir Loïs.
Ah, avec plaisir.
Parce qu'elle aussi, elle a joué un rôle fondamental dans absolument. Votre combat. On va accueillir donc sa compagne, sa femme depuis
L'année prochaine.
L'année prochaine, d'accord. La future femme, Loïs. Bonjour Loïs.
Bonjour.
Et bienvenue parmi nous.
Merci.
Ça fait du bien de vous voir réunis.
Ah oui.
Puis vous, ça vous fait du bien qu'elle soit là, ça y est. Ouais, c'est plus facile. Quand est-ce que vous avez eu la confirmation, Loïs, de ce que vous craigniez tous les deux ?
Eh bien, on l'a eu, c'était...
Chez l'urologue, voilà.
Oui, chez l'urologue.
C'est très récent, hein, tout ça. Hein. Ça date d'il y a quoi ? Quelques mois à peine.
Oui, ça fait quelques mois à peine. Oui. C'est la fin de l'année 2021. Voilà, c'est...
Donc l'urologue vous a confirmé les choses ?
Tout à fait.
Oui.
Est-ce que vous avez... comment vous êtes positionnée tout de suite en tant que femme ? Est-ce que vous avez senti qu'il fallait le rassurer immédiatement sur la maladie, mais même sur la virilité et ses conséquences ?
Oui. Oui. Il m'a tout de suite dit, ça y est, je vais perdre ma virilité, je ne vais plus me sentir homme. Mais moi, je lui ai tout de suite dit que ce n'était pas ça qui faisait sa virilité, que ça ne le changeait pas. Ouais. Et donc, voilà.
Combien de temps après, donc, vous avez eu la confirmation définitive? Il vous a dit qu'il fallait opérer. Donc, sans savoir vraiment si c'était bénin ou malin, mais là, il a très vite confirmé que oui.
Oui, alors à la différence de certains cancers, là, on ne peut pas faire de biopsie. On est obligé de faire l'orchidectomie, qui est donc l'ablation du testicule.
Comment ça s'appelle?
L'orchidectomie.
D'accord, donc immédiatement, on retire dans le doute, sans savoir si c'est bénin ou malin.
On ne sait pas si c'est bénin ou malin. Pas de biopsie possible. Et il y a 2-3 semaines d'analyse. Et là, effectivement, il y a un deuxième rendez-vous donc, avec l'urologue, qui a confirmé ce jour-là donc, que c'était bien un cancer.
Comment ça se passe, l'opération? C'est douloureux?
Alors, l'opération en elle-même, non. Mais effectivement, c'est très douloureux. Alors, pour l'image, on ne va pas faire l'opération, on ne va pas faire l'incision au niveau des bourses, mais au niveau du scrotum, mais au niveau de l'aine, en fait, comme une
césarienne.
Très profond. Et on ressort le testicule par là. Voilà.
Et est-ce qu'on vous propose de mettre une prothèse? Je crois que ça existe. Hein,
absolument, tout à fait. Alors, c'est un cancer qui touche principalement une population de jeunes entre 15 et 35 ans.
Ah, voilà. C'est important de le dire.
C'est important esthétiquement, puisque ça ne fait que le job esthétique, mais d'avoir effectivement, on m'a proposé dans la foulée de mettre une prothèse testiculaire.
Ce que vous avez tout de suite dit, oui.
Absolument, tout à fait.
Est-ce qu'on vous a tout de suite parlé de vos capacités à avoir des enfants?
Oui, la question s'est vite posée, puisque le même jour avec Loïs, il a proposé que je fasse une cryoconservation de spermatozoïdes à Nancy. Il y a effectivement donc 13 paillettes qui seront conservées jusqu'à mes 59 ans à
Pourquoi
Nancy,
59 ans?
C'est 59 ans, voilà, c'est comme ça.
C'est pas 60, c'est 59.
C'est 59 ans, voilà.
Vous avez quelques années devant vous.
Voilà, on se retrouvera peut-être dans une émission.
À 58, dépêchez-vous. Quoi. D'accord, donc ça vous a rassuré, ça?
Ah oui, complètement, oui. Ça nous, c'était dans nos projets d'avoir des enfants. Donc forcément, quand vous êtes arrêté comme ça en plein vol sur ce type de cancer, oui, savoir qu'il y a ce recours. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir procréer naturellement, on va le savoir, mais il y a cette alternative, oui.
Expliquez-moi ce qui s'est passé justement, les questions que vous êtes posées au niveau de votre virilité.
Oui, alors... Déjà, d'une manière générale, le cancer et les traitements ont une incidence, un impact sur la sexualité,
la libido,
sur l'intimité. Voilà, d'accord. Absolument.
Peu importe le cancer, d'ailleurs.
Peu importe le cancer, tout à fait. Là, dans mon cas, on parle du cancer des testicules. C'est une zone qui
intime, est évidemment.
Intime, tout à fait. Et avec tout ce que ça engendre, donc je l'ai évoqué, c'est l'orchidectomie. Oui, alors, on se pose des questions. Est-ce que je suis toujours viril en vivant avec un seul testicule? Est-ce que je vais... conserver ma capacité érectile, ma capacité à atteindre un orgasme? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Ces questions-là se posent forcément. Et aujourd'hui, j'ai une prothèse et puis j'ai fait la cryoconservation de spermatozoïdes. Mais il faut accepter qu'on a ce corps étranger à l'intérieur de soi. Il faut accepter que ça a un petit peu changé au niveau du bas-ventre. Il faut accepter que les sensibilités ne sont plus les mêmes au toucher. C'est important dans une sexualité. Il faut se réapproprier son corps et puis l'utiliser, si je peux me permettre, d'une autre manière. Voilà.
Différemment, est-ce que vous reconnaissez dans les questions qui s'est posées, Sébastien et Wissam, la virilité? Oui, c'est ça. Hein.
C'est exactement ça, c'est la virilité. La première chose, c'est la virilité. Est-ce que, étant opéré de cet endroit, est-ce que vous allez avoir une érection normale? Est-ce que vous allez avoir envie? Est-ce que, si vous êtes en couple, ça va tout casser?
Totalement.
C'est la question principale.
Vous aussi, Wissam?
Pour moi, ce n'est pas le même cancer que les messieurs ont eu, mais c'est surtout cette période de questionnement, cette période de remise en question où on se dit, est-ce que je reste quand même toujours moi-même, malgré le cancer, malgré toutes les conséquences que ça va avoir sur mon corps? C'est surtout là, je pense que tous les trois, on a déjà vécu ça c'est sûr.
C'est clair, ouais.
Ce que je trouve très difficile dans ce qu'il nous raconte, Jonathan, c'est aussi le tourbillon et la rapidité du tourbillon, parce que ce sont des questions... auquel on n'est pas. Enfin, remarque, on est aussi dans le cancer du sein et les questions qui se posent à ce moment-là, mais on se pose des questions très rapidement existentielles, une question de vie ou de mort, et puis une question de tout son avenir, avoir des enfants, et on parle tout ça en 3 semaines, quoi.
C'est sûr qu'il y a une sidération importante, et Le mieux dans ces cas-là, c'est de se laisser porter par une équipe de confiance et d'avoir un entourage, parce qu'on n'est pas, on est plus lucide sur ce qu'on doit décider. Alors on peut toujours dire il me faut quelques jours pour réfléchir. En général, on les a, mais quelques jours, c'est pas beaucoup pour ces questions aussi importantes. Et c'est pour ça que les équipes soignantes ont l'habitude d'accompagner et vont très très vite en disant ah ben non, il faut un bilan complet pour qu'on puisse, pour que vous ayez l'ensemble des éléments pour essayer de décider au mieux. C'est vraiment une tornade.
C'est une démarche militante d'être là, parce que je trouve que vous en parlez avec beaucoup de courage, et puis aussi avec des termes, vous ne tournez pas autour du pot, vous dites les choses. Pourquoi c'est important d'en parler, selon vous ?
Pour moi, c'est important parce que, je l'ai évoqué il y a un instant, ça touche une population de jeunes entre 15 et 35 ans. J'ai du mal à m'imaginer aujourd'hui, alors moi je ne savais pas que ça existait en plus le cancer du testicule, et j'ai du mal à imaginer qu'un jeune de 14-15 ans, alors après voilà, mais puisse en parler à ses parents spontanément s'il a rencontré... Yes. Une anomalie au niveau de ses testicules à sa copine, etc. Et est-ce qu'il va franchir le pas et voir son médecin traitant pour dire ben voilà, j'ai quelque chose aux testicules, qu'est-ce que j'ai, etc. Je ne pense pas. Ma démarche, elle est là, en fait, elle est de sensibiliser vraiment. Voilà. Le cancer du sein, je le suis, je combats même avec. Je le soutiens. Mais le cancer du testicule, j'ai jamais entendu. Je vais être cru, mais palpez-vous les testicules à un moment donné dans l'année, durant
c'est
l'année.
Vrai, c'est vrai.
Et s'il y a quelque chose, consultez. Parce que vaut mieux perdre ce petit temps-là que perdre une vie. Parce que c'est. Moi, j'avais une atteinte ganglionnaire. Hein. J'avais peut-être attendu un petit peu trop longtemps. C'est-à-dire que
ça
le cancer.
Ça veut dire quoi ? Pardon, excusez-moi. Ça veut dire qu'il était en train de se propager ?
Absolument. Normalement, là où le cancer aurait pu. Enfin, la tumeur aurait pu. L'ablation du testicule aurait pu suffire à arrêter le cancer. Moi, il s'était déjà propagé dans la chaîne ganglionnaire.
Et ça, on vous l'a appris après ?
Ah oui, complètement. Et puis d'ailleurs, au fur et à mesure des scanners, moi, je me dis, il y avait des ganglions cancéreux. Il y avait chaque semaine, ça se développait, ça grossissait. Il y en avait d'autres qui apparaissaient. Et puis moi, j'ai cru que j'allais mourir. Ça allait tellement rapidement que.
Mais c'est important ce que Jonathan dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un cancer de très bon pronostic. Le message est plutôt positif, mais comme beaucoup de cancers, plus on le prend tôt, plus c'est facile de le prendre en charge et plus c'est favorable.
Donc, et surtout, plus on est jeune, plus c'est agressif, non ?
Alors, la tranche d'âge, elle est avant 40 ans. Donc là, c'est pas forcément vérité absolue. Mais les garçons et les hommes ont peu l'habitude, n'ont pas cette éducation d'être suivis. C'est pas comme une jeune fille ou une jeune femme qui va chez le gynécologue.
Nous, on en entend beaucoup parler. Il y a des mois entiers comme l'Octobre Rose où on parle que de ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Et merci en effet pour les jeunes qui nous regardent, qui vont s'identifier à vous, voir que vous êtes absolument comme tout le monde et se dire bah oui, il a raison. Cette émission circule beaucoup auprès des jeunes générations, donc c'est important de le faire. Vos traitements, du coup, comme ça s'était propagé, vous avez eu des traitements lourds, des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie ?
Totalement. Alors, c'est le type de cancer. Alors, même s'il a un bon pronostic, on attaque très fort sur ce type de cancer. J'ai été hospitalisé pendant plusieurs semaines avec une chimio, donc du lundi au vendredi, je sortais le samedi, et j'avais 3h30 de chimiothérapie par jour. Et une semaine, donc, et puis 2 semaines de repos, entre guillemets, mais... Il s'avère que j'ai très, très, très mal supporté la chimiothérapie. Et que,
Qu'est-ce que vous avez eu comme conséquence ?
Beaucoup d'infections, des plaquettes qui étaient au plus bas, enfin tout le système immunitaire qui était au plus bas. C'était vraiment une chimio très, très forte. Des infections, de la plasie. Et puis j'ai bien. Enfin, j'allais plus mourir, entre guillemets, de la chimiothérapie que du cancer en lui-même, on va dire. Voilà.
Vous avez perdu vos cheveux ?
Oui, bien sûr.
La barbe aussi ?
La barbe, tout ce que j'avais. Juste les sourcils, mais voilà. Mais ça, c'est...
Les cheveux, ça a été une étape difficile.
Ouais, quand on prend soin de soi... Enfin, je faisais toujours attention de moi. Je fais mon brushing le matin. je mets mon gel. Je demande si je suis beau, si je peux sortir comme ça. Et puis on aime bien prendre soin de sa barbe, etc. Et puis, quand on les perd, je les ai perdus à l'hôpital. Et puis, vous réveillez un matin et vous voyez que vous avez des cheveux et de la barbe sur le coussin, sur l'oreiller. Puis là, vous faites ça et vous en avez plein les doigts. Et puis là, vous appuyez sur la sonnette et vous avez des infirmières au pied de votre lit qui vous disent « C'est normal, Jonathan, t'inquiète pas. » C'est la réaction de la chimiothérapie. Mais c'est peut-être à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais un cancer, en fait. Parce que voilà.
Je suis très émue de vous écouter. On a eu beaucoup de femmes sur ce plateau qui ont parlé de la difficulté de perdre les cheveux et jamais un homme, en fait. Mais les questions se posent de la même manière. Et vous vous sentiez comment pendant toute cette période-là, Loïs?
Ça a été très difficile. Mais c'est ce que je disais. Je voulais rester combative pour lui. C'était pas sans larmes, mais je voulais être forte pour lui, vraiment être là pour lui, l'encourager.
Elle m'a inondé de soutien. Mmh. Elle a été jamais elle n'a pleuré devant moi. Elle m'a toujours soutenue quand ça n'allait pas, quand j'étais.
J'ai essayé de dramatiser, voilà. Surtout. Oui. De le projeter dans la vie, justement. Comme une forme de déni. Moi, je n'acceptais pas qu'il ait cette maladie-là, même si je le voyais, mais je n'acceptais pas. Et du coup, j'étais plutôt positive.
Loïs a été, si je peux me permettre, elle a été confrontée plus jeune au cancer de sa maman. Et c'était une épreuve difficile pour elle. Et quelques années plus tard, elle est confrontée à la même chose. Elle revit ce moment avec son copain, c'est quelque chose de difficile pour elle. Mais en même temps, c'est peut-être ça qui a aussi fait qu'elle avait les bambous, qu'elle avait le bon accompagnement, elle avait le... voilà.
Vous avez eu peur de le perdre?
Oh que oui. Même si je me le refusais d'y croire, mais c'est vrai que la question posée était, ouais, là.
À quel moment la chimiothérapie est passée? Là, on vous dit quoi après? Qui vous êtes sur surveillance là, en ce moment? Vous êtes dans quelle période?
Alors, aujourd'hui, je suis en rémission. Donc voilà, avec un suivi, voilà, ça c'est une très bonne nouvelle, avec un suivi qui se fait tous les 6 mois chez mon oncologue, avec un scanner, etc. Voilà, c'est de la rémission, mais c'est un mauvais souvenir, quoi. C'est on y pense tous les jours, on se demande si ça va pas revenir, on profite de la vie, on profite de tout, on vit deux fois plus après ça.
Vous me parlez de votre intimité? Comment ça s'est passé? Parce que c'était toutes les questions que vous vous posiez. Est-ce que vous alliez pouvoir avoir des rapports sexuels normaux, avoir les enfants, vous nous avez expliqué. Mais néanmoins, est-ce que cette intimité a été compliquée? Mais au-delà même de la mécanique, savoir si vous, votre rapport à votre corps, les choses ont été bousculées, j'imagine.
Oui, bien sûr. Elles ont été bousculées. Bien sûr, on ne fait pas l'amour de la même manière qu'avant le cancer. La première fois, enfin, le retour aux actes sexuels, aux rapports sexuels, c'est beaucoup d'appréhension. C'est est-ce que je vais mal, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais être endurant, est-ce que je vais procurer du plaisir, bien sûr, c'est
les sensations sont différentes.
Alors, comme je l'ai dit, j'ai perdu, alors, du fait de l'opération, de la sensibilité au niveau du toucher, effectivement. Aujourd'hui, j'ai de la libido qui est tout à fait normale. Enfin, ça va très, très bien de ce côté-là. Mais il y a eu un moment d'adaptation, de réappropriation de mon corps. C'est une réalité. Voilà, c'est un vrai sujet.
Vous avez eu un rôle à jouer à ce moment-là, Loïs, aussi, pour le rassurer.
Oui, 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 oui.
C'est vrai que... Oui, oui. C'était rassurante dans ces mots, dans ces moments-là. Voilà, elle avait le Jonathan d'avant, et puis voilà.
Est-ce que vous avez eu un contre-coup?
Ouais. Alors ça a été plutôt difficile parce que lorsqu'on m'a annoncé que j'étais en rémission, bien sûr, magnifique. J'ai pleuré de joie. C'est le champagne le soir, avec modération. C'est le champagne le soir, mais très rapidement, quand on vous annonce que vous êtes en rémission, vous faites une rétrospective de ce que vous avez vécu. Et vous ressassez tout ce que vous avez vécu, par où vous êtes passé, etc. Et c'est là que j'ai pris aussi conscience de... que je suis passé à côté de la mort. Et il y a eu... c'est drôle, mais je disais à Loïs, mais je ne suis pas bien. Une période n'allait pas bien. Pourtant, je suis en vie, j'ai combattu le cancer. Et je suis rentré dans une forme de dépression. Et en échangeant avec d'autres personnes qui ont été atteintes d'un cancer ou qui traversaient, m'ont dit que effectivement c'est une, enfin ça, même avec des psychologues, c'est une réalité. On peut avoir cette forme de dépression post-cancer. Ouais, voilà. Ouais,
ouais. Florian, c'est courant. Le contre-coup, c'est le contre-coup?
C'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est-à-dire qu'il y a la phase de sidération. Bon, on a du mal à penser. Après, il y a la phase de soins qui est assez intensive. Donc on est en coucouner, c'est peut-être un bien grand mot, mais on a tellement de rendez-vous, tellement de choses à faire qu'on
est
dans l'action.
On est dans l'action.
Et puis après, certes, il y a des bonnes nouvelles, donc ça, c'est le soulagement, mais on est des fois un petit peu démunis face à la maladie, face aux questions qui se posent, face au remaniement que ça implique dans le couple, mais des fois professionnel, financier. Et là, ça peut être authentiquement compliqué pour la modification de l'environnement, mais aussi pour le fait d'avoir été exposé à un stress prolongé. Donc on a les deux, on a des aspects biologiques, le stress, bah, à un moment donné, bah, quand ça relâche, c'est difficile, et puis les changements qui ont eu lieu, parce que vous étiez très bien accompagné, mais dans d'autres situations, c'est synonyme de rupture, de séparation, de changement de cellules familiales.
On le verra, hein, oui, pour nos invités aussi. Aujourd'hui, de quelle manière, est-ce que ça a changé déjà fondamentalement l'homme que vous êtes? Vous avez commencé déjà à m'expliquer, oui, pour travailler?
Oui, absolument, je retravaille, là je reprends en temps complet. Voilà, il y a eu un mi-temps thérapeutique qui a été mis en place. Moi, je voulais reprendre le travail comme ça à 100% et y aller. On m'a déconseillé et heureusement que j'ai pas repris à 100%.
Parce que vous fatiguez beaucoup.
Ah, mais c'est incroyable. La chimiothérapie, elle reste dans le corps pendant plusieurs mois après.
Ah oui.
Je suis encore fatigué. Ça s'estompe peu à peu, mais il y a une fatigue qui est extrême.
Vous me disiez que vous aviez envie de vous lancer dans le projet d'un enfant et que vous accélériez un peu. Vous aviez envie de bouffer la vie.
Tout à
Est-ce
fait.
Que c'est le cas aujourd'hui?
Alors, effectivement, c'est une envie qui est intense. Alors, accélérer les choses, oui, mais faire attention parce qu'on parle de cette chimio. Et puis, il faut patienter 18 mois après la dernière chimio. Donc, on doit attendre ce délai-là parce que si le risque d'avoir un enfant, ce serait que voilà, les spermatozoïdes soient altérés, les ovocytes, et que le bébé ait des complications.
Oui. Donc,
on doit attendre ce délai de 18 mois. Et ensuite, effectivement, l'année prochaine, c'est dans les pensées, bien sûr.
Vous aviez une question pour Florian, je crois.
Oui. Alors, effectivement, alors, maintenant que je suis en rémission, j'ai quand même cette difficulté. J'ai l'impression d'avoir cette épée d'Abouclette sur la tête et me dire, c'est 5 ans de rémission, OK, mais j'ai peur de me retrouver en rechute d'un cancer. Je ne sais pas comment appréhender ces 5 années, en fait.
Alors déjà, c'est normal, c'est déjà une bonne chose d'être dans la norme, c'est-à-dire ça serait un peu déconnecté de ne pas avoir du tout de préoccupation par rapport à ça. Et c'est pas évident d'avoir une épée de Damoclès, et en même temps, c'est comment transformer un danger en une opportunité, c'est-à-dire comment le temps, le quotidien devient quelque chose finalement d'assez précieux, c'est-à-dire que à la fois en termes de durée, mais aussi ce qui nous crée du souci ou ce qui crée des conflits par le passé, on voit que finalement, les choses, on se prenait la tête, entre guillemets, pour des choses qui étaient de moindre importance.
Ouais.
Donc, tout le travail psychologique et l'adaptation à la maladie, c'est de se projeter vers l'avenir et puis de profiter de l'instant présent et de relativiser. C'est-à-dire que s'il y a un message important quand on traverse une telle épreuve, c'est que ça nous permet d'ajuster un petit peu ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et ça serait un petit peu ça. Mais l'épée, vous l'aurez, mais elle va diminuer, cette épée de Damoclès, au fur et à mesure des projets que vous allez réussir à concrétiser.
Vous laissez du temps. Ouais, en effet, là, ça va vite, tout va vite. Hein.
C'est clair.
Il paraît qu'à l'hôpital, vous nous regardiez parfois.
Je n'ai pas compris, pardon.
Il paraît que quand vous étiez à l'hôpital, parfois, vous nous regardiez l'après-midi.
Ah, mais totalement, ouais, vous faisiez partie. L'émission passait au moment où j'avais mes chimiothérapies. Je vous regardais, puis je vous ai envoyé d'ailleurs un message pour remercier des sujets qui passaient, parce que j'ai ri, j'ai pleuré, mais vous avez fait partie de ma... De mon traitement.
Et bien maintenant, vous faites partie de notre famille et vous me donnez l'occasion de saluer tous ceux qui sont à l'hôpital, qui nous regardent. Je sais
Absolument.
Que vous êtes très nombreux. On pense à vous et peut-être un jour, on vous retrouvera sur le plateau. Si vous connaissez l'émission, vous savez qu'on fait parfois des petites surprises.
Ah. Bon, mais oui, oui, oui.
Bah
mais,
oui.
Oui, oui. Non, mais c'est pas le A pour la surprise, c'est le.
C'est qu'est-ce A. Que vous m'avez préparé. Oh, une petite surprise qui va vous toucher, je pense. Regardez derrière moi.
Alors.
À toi mon frère, je tenais de tout cœur à te réaliser cette vidéo pour te montrer encore une fois mon soutien. Bravo pour ton courage et ta détermination. Ta parole ne doit pas être seulement entendue, mais écoutée au plus grand nombre de personnes, quel que soit l'âge, parce que ce cancer peut toucher n'importe quel homme. Tu as été un frère exemplaire, je t'envoie beaucoup d'amour, mon frère jumeau.
Ah oui.
Ah ben on vous avait dit aussi que sur le plateau on pleure.
Oui.
Mais c'est des joies aussi.
Ouais.
Vous êtes très entouré, hein, Jonathan.
Très, très. Ça a été essentiel. J'ai jamais été seul face à ce combat. Et Anthony, je sais qu'il en a souffert. Alors, il y a cette relation de frère, cette relation fraternelle, mais il y a cette relation de frère jumeau. Ouais, et le risque qu'il peut avoir aussi. Enfin, j'ai appris qu'il avait un risque important d'avoir aussi ce développé cancer parce que c'est génétique.
Ah,
et,
oui.
Et c'était difficile pour lui de me voir souffrir.
Donc vous lui donnez l'exemple aussi. Regarde, moi,
ouais,
si je m'en suis remis, tu t'en remettras.
Ouais,
si ça doit arriver, évidemment.
Absolument.
Qu'est-ce que vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, Sébastien?
C'est un petit peu la même histoire que moi. C'est un battant, il s'est battu pour vivre. Vous êtes mis comme dans une machine à laver, vous êtes tourné dans tous les sens. Quand on vous apprend que vous avez un cancer, tout s'enchaîne, tout. Vous devez faire la chimio, vous devez faire des traitements, vous devez faire des prises de sang, vous avez l'impression que vous êtes plus maître de votre destin. C'est ça le pire.
Et cette urgence de vivre, vous l'avez ressenti, vous?
Ah oui, complètement, oui. Il faut pas laisser 2 secondes de vie, il faut tout prendre dans cette vie. C'est ce que je dis toujours à mon entourage. Si j'ai réussi à m'en sortir, si des personnes comme Jonathan ont réussi à s'en sortir, si d'autres gens ont réussi à s'en sortir, il faut tout prendre, tout. Il faut toujours se battre, il faut toujours être positif. Et il faut arrêter surtout de dire que l'on meurt du cancer. Bien sûr que l'on meurt du cancer, c'est sûr. Mais il y a tellement de gens qui
se remettent du
cancer. Et ça, on ne le montre pas assez à la télévision, on ne l'entend pas assez à la radio.
Oui, vous avez raison. Est-ce que le Sébastien d'avant ressemblait au Sébastien d'après? Vous aviez déjà les tatouages, la barbe, tout ça?
Non, la barbe est arrivée après, les tatouages sont arrivés après. Le tatouage symbolique, c'est vivre.
Ouais.
Parce que, vous savez, quand j'ai... La première fois, j'ai longtemps parlé avec mon cancérologue, avec mon oncologue, et il me disait peut-être que votre vie aura changé. Et après.
C'est vous, ça?
Eh oui, c'est moi sans la barbe.
Ah, oh, bah dis donc, je vous aurais jamais reconnu. Vous êtes un peu plus rock aujourd'hui, un peu plus. Ouais, un peu. Ouais.
Non, il y a toujours une deuxième vie. Il y a deux vies. Ouais. Il y a la vie avant le cancer, il y a la vie après.
Alors, avant, elle ressemblait à quoi, votre vie?
La vie de monsieur tout le monde, même si j'aime pas ce mot, c'est-à-dire une femme, 2 enfants, un travail.
Heureux, vacances, vous étiez heureux?
Oui, oui, je ne peux pas dire que je n'étais pas heureux. La vie coulait tranquillement. C'est une vie sans problème.
Les mêmes symptômes que Jonathan, un jour, on se parle.
Une énorme fatigue, une énorme fatigue physique et une grosse perte de poids. Je crois que j'ai perdu 4 ou 5 kilos en une semaine.
Ah oui.
Mais vraiment une grosse fatigue.
Anormale.
Anormale, oui, complètement. Après, j'ai toujours fait attention à moi, donc j'ai demandé à mon ex-femme de prendre rendez-vous chez le docteur. Je vais chez le docteur, c'est un médecin de famille, et il me dit « Non, c'est pas grand-chose, écoute, franchement, peut-être que c'est une petite boule graisseuse. » Et il me dit « Mais je te sens inquiet. » Je dis « Ouais, parce que je suis pas comme dans la vie de tous les jours. »
Oui, vous aviez une intuition qu'il y avait quelque chose de plus grave. Ouais.
Et donc, il me dit « Bah écoute, il faut faire une échographie. » Ce que j'ai fait, comme je tends très rapidement, et là, l'échographie, je vois que le docteur qui me fait l'échographie regarde son attestante et lui dit « c'est très grave ».
Ah bah super.
Mais à aucun moment, j'ai pensé que j'avais un cancer.
Vous avez pensé à quoi?
J'ai pensé peut-être quelque chose, une torsion ou quelque chose, mais jamais, jamais j'ai pensé à ça.
Et quand il a dit « c'est très grave »
Ça m'a, il y a un dixième de seconde, je me suis dit « qu'est-ce qui se passe ?»
Ouais,
après, il m'a dit « vous m'attendez, on fait un briefing ». On a fait un briefing, il m'a dit « est-ce que vous voyez votre médecin traitant ?» Je lui ai dit, bah, écoutez, oui, je le verrai dans la semaine. Il m'a dit, non, je pense que c'est plus grave que vous ne le pensez.
Horrible d'annoncer les choses comme ça à quelqu'un.
C'est-à-dire,
un médecin, par exemple, qui voit ça à l'échographie, n'a pas le droit d'annoncer à son patient ce qui se passe. Il faut qu'il le renvoie vers son médecin traitant.
Alors, classiquement, oui. L'opérateur, entre guillemets, même si c'est un peu péjoratif dit comme ça, doit transmettre le résultat à un médecin et c'est au médecin d'annoncer la réponse. Mais... comme il ne peut pas s'assurer que vous allez bien retourner voir votre médecin, il est quand même obligé d'indicer un petit peu les choses en disant « c'est grave, vous êtes sûr que vous allez vraiment y aller ?» Donc, il donne quelques éléments qui sont, pour le coup, très inquiétants, mais qui sont nécessaires parce que sinon, on y va 15 jours après et ça peut être trop tard.
Et le médecin, il vous a annoncé les choses
Donc, l'après-midi même, j'ai été chez le docteur qui m'a dit « écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins, vous avez un cancer. » Et là, c'est la chape de plomb, c'est plus un mot, je ne pouvais plus rien dire.
Sidéré.
Ah oui, je suis sidéré, je suis bloqué, je ne sais pas ce qui m'arrive.
Et vous saviez quel stade, ce qui se passait?
Non, pas encore. Il m'a juste dit, c'est très grave, on est samedi, vous rentrerez lundi à l'hôpital, on va vous opérer lundi soir. Ça s'est enchaîné.
Tourbillon, quoi.
Ouais, c'est le tourbillon.
Et on vous a expliqué l'histoire de la prothèse possible, toutes
pas
les questions que vous pouviez
fois,
vous poser. Non,
fois.
Là, vous étiez en survie, quoi.
Ouais, c'est ça. On m'a dit, écoutez, il y a 95% du testicule qui est infecté, il faut l'enlever. Donc déjà, pour un homme, comme pour Jonathan, vous demandez, ça touche une grosse partie de votre virilité.
C'est compliqué de l'annoncer à sa femme?
Oui, c'est très compliqué, mais sur ce genre de choses, vous êtes égoïste, vous pensez qu'à vous.
Ouais. Les questionnements sont arrivés à quel moment, vous, Sébastien?
Quand je suis arrivé à l'hôpital, le matin, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont m'enlever le testicule, qu'est-ce que je vais devenir? Et après, tout ce qui est sexe.
Qu'est-ce que je vais devenir?
Est-ce que sexuellement, je serai encore un homme? Est-ce que, tout ce genre de questions.
Et on vous a expliqué les choses au fur et à mesure?
Oui, franchement, j'ai été à l'hôpital de Compiègne, en Picardie.
Ouais.
Très, très bien. Tout s'est bien déroulé. J'ai ablation du testicule. Ouais. Et après, on a attaqué la chimie, la radiothérapie.
Ouais.
Un mois de radiothérapie.
Vous avez demandé une prothèse, vous aussi?
Pas la première fois. Pas la première fois, non. Et après, on fait les traitements s'enchaînent. Vous n'avez pas trop le temps de réfléchir.
Ouais, ouais.
Et mon histoire est particulière parce que j'ai été opéré du deuxième testicule 10 mois après.
En fait, c'était déjà, le deuxième était déjà infecté, on ne l'avait pas vu ?
Non, non, on ne peut pas dire ça parce que c'est deux cancers différents.
Ah oui, c'est deux cancers différents, ouais, c'est deux mais c'est sur la même chose.
C'est la même chose de l'autre côté. Ah, là. Donc là, ablation du deuxième testicule, prothèse. Là, on m'a proposé de mettre des prothèses, ce que j'ai eu. Mais après, ça en découle beaucoup trop de choses parce que là, il me faut un apport hormonal.
Ah oui,
là,
bien sûr.
Il faut un apport hormonal, c'est obligé.
Et alors, comment ça se passe ? Pour garder la même voix, pour garder la même
voilà, exactement, on vous explique, pour garder la voix, pour ce qui est graissage de cordes vocales, et après, pour tout ce qui est libido, érection.
Ça a été angoissant, ça, tout d'un coup, quand on vous dit, mon Dieu, vous allez perdre là, vos hormones masculines ?
C'est un tsunami. Là, j'ai vécu tsunami. C'est là qu'à l'hôpital, je me suis dit, si je me sors de ça, je ne serai plus la même personne, je ne serai plus le même Sébastien. Et c'est ce qui a fait qu'après, un an après, j'ai demandé le divorce, j'ai fait le tour du monde, pas presque, et j'ai voulu, et encore maintenant, pas perdre 2 secondes de ma nouvelle vie. Pour moi, on m'a donné une deuxième chance.
C'est-à-dire qu'après la deuxième opération, vous avez décidé de changer donc radicalement de vie.
Oui.
Votre vie n'allait plus, votre vie sentimentale.
Non, 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 ah non, je ne peux pas dire ça comme ça, mais j'ai tellement eu peur de mourir.
Vous vouliez autre chose. Et vous êtes parti faire un tour du monde.
J'ai beaucoup voyagé. Après, je suis un grand fan de boxe depuis longtemps, depuis tout petit. Donc, je me suis plongé complètement là-dedans. Et puis, j'ai voyagé. J'avais envie de plein de choses. J'avais envie de rencontres. J'avais envie de sexe, tout simplement.
Vous avez envie de rencontres
Oui.
Parce qu'on aurait pu vous rendre particulièrement pudique ou angoissé.
Et non, j'avais besoin de me prouver la
vérité. Vous étiez, Donc, vous avez eu beaucoup de relations à droite, à gauche.
Et
c'était important pour vous de vous retrouver. Est-ce qu'à un moment, on se pose et on se dit... La barbe aussi, c'était une manière de...
Oui, bien sûr.
Ouais, d'afficher votre virilité.
La virilité, oui.
À un moment, on se dit, c'est bon, je suis rassasiée, je me suis rassurée.
Oui, au bout de 5-6 ans...
Ah, quand même.
Ah oui, il faut du temps. Après, chaque personne
bien sûr.
Prend le temps qu'il a à prendre. Mais je me suis dit, il faut peut-être devenir une vie normale. Et puis, mais le cancer vous suit toujours, j'y pense très souvent.
C'est-à-dire que tous les jours, vous vous dites quoi ? Quand vous dites « ça me suit », vous vous sentez...
Je me dis deux choses.
Survivant, oui, dites-moi.
Voilà, c'est ça. Un survivant. J'ai la prétention de dire que j'ai battu 2 fois le cancer.
Ah, pas vous la pétez un peu, en fait.
Je peux dire ça comme ça.
J'aimerais que tout le monde se la pète de la même manière.
Non, mais sincèrement, il faut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut dire qu'on survit du cancer.
Oui.
Et j'aime ce mot, vivre et survivre, parce qu'on ne reste jamais indemne. Psychologiquement, vous êtes marqué.
Et après cette boulimie de vie, vous avez voulu reprendre une vie plus traditionnelle ?
Là, je me suis posé, j'ai vécu 5 ans avec une personne qui voulait un enfant, mais je n'ai pas pu lui donner parce que techniquement...
Vous le disiez d'ailleurs, pardon, mais justement,
oui,
le disiez à vos conquêtes ? Alors, on ne dit pas quand on a une prothèse, mais...
Vous ne dites pas j'ai 2 prothèses, hein, parce que par rapport à une personne normale, il y a beaucoup de différences.
Oui, et alors, vous ne le confiez pas... par exemple, cette personne avec laquelle vous êtes resté 5 ans, vous lui avez dit d'office que vous ne pourriez pas avoir d'enfant.
Oui, elle avait 10 ans de moins que moi. Je lui ai dit, moi, je ne veux plus avoir d'enfant parce que je n'ai pas fait j'ai pas bloqué du sperme comme m'a fait Jonathan. Je ne voulais pas faire ça. Ça fait partie du Sébastien d'avant.
Il n'avait pas de tatouage, le Sébastien d'avant ?
Eh non.
Il n'avait pas de barbe, il n'avait pas de tatouage. Nouvel homme, quoi.
Ouais, plein d'autres envies, plein de...
Elle ressemble à quoi, votre vie, aujourd'hui ?
J'ai beaucoup voyagé. Et j'ai encore envie de voyager, j'ai envie de découvrir d'autres pays, d'autres gens et croquer tout ce qu'il y a à croquer de cette vie. Il ne faut rien lâcher de cette vie.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux hommes qui nous regardent et qui viennent d'apprendre qu'ils sont touchés par cette maladie ?
Que, comme a dit Jonathan, en fait, il faudrait que la médecine mette un protocole. Parce que pour les femmes, par exemple, il y a, des examens pour voir pour les seins.
Oui, bien sûr.
Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais... à partir d'un certain âge,
mammographie.
Et je pense que la médecine devrait mettre en place ce genre de choses.
Pour des hommes, oui.
Mais après, c'est vrai que c'est un cancer.
Est-ce que les hommes iraient ?
C'est pour leur bien.
Il y a un mois qui est dédié au cancer masculin, c'est le mois de novembre, Movember.
Oui, Movember, on s'est poussé la barbe.
Voilà, tout à fait, la moustache. Alors après, effectivement, c'est sûr qu'il faudrait des spots. C'est, comme je vous dis, je le dis crûment tout à l'heure, mais c'est... Palpez-vous les testicules, voilà.
C'est compliqué de dire à des hommes, palpez-vous les testicules, allez faire des traitements. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas touchés, ils veulent même garder à distance ces questionnements.
En vrai, ça ne devrait pas être si compliqué que ça, mais voilà, il y a tout un poids culturel et par rapport à l'image de l'homme, à la sexualité, à la vérité qui font que c'est compliqué. Et puis, pour les hommes, c'est vrai que Les difficultés au niveau du cancer, c'est plus la seconde moitié de la vie avec la prostate, avec ce type de cancer. Donc, effectivement, oui, il y a une forme d'insouciance. Alors, il y a quand même un dépistage, notamment au collège et au lycée, mais c'est souvent trop tôt. On vérifie que les organes sont bien en place, que la puberté est lancée, mais le vrai dépistage, il n'y en a pas. Et finalement, c'est au médecin de famille de penser, alors que l'ado ou l'adulte vient pour autre chose, de lui demander de se déshabiller, ce que la personne n'aime pas faire.
On n'a pas tous un médecin de famille, en plus. Tout à fait. Mais est-ce que c'est dangereux, la fuite en avant de Sébastien? Il a très bien contrôlé les choses. Néanmoins, il y a un petit côté tête brûlée, quoi.
C'est la question de savoir est-ce que c'était en soi et finalement on exprime un désir qui était là avant la maladie et finalement on s'autorise à le vivre.
Le vrai Sébastien, vous avez raison.
Ou est-ce que c'est destructeur? Et là, on n'a pas l'impression que c'était destructeur ou suicidaire, comme s'il n'y allait pas avoir le lendemain. C'est plutôt j'aspire à assouvir mes désirs, mes passions.
Ça a été le déclic pour m'écouter.
La deuxième fois, quand j'ai été reçu par mon cancérologue, avant qu'il mon père... Il m'a dit, c'est une catastrophe, vous avez un deuxième cancer. Et moi, mes enfants étaient petits. Mon fils avait 7 ans, ma fille avait 5 ans. Et j'ai tout de suite pensé à eux, même pas à moi, à eux. Et je lui ai dit bêtement, est-ce que je vais mourir? Et il m'a regardé, il m'a dit, très franchement, je ne sais pas, vous êtes très atteint. Mais j'ai tellement peur, j'ai pleuré, je crois, pendant une heure sans m'arrêter. J'ai tellement eu peur de mourir, que maintenant, dans cette nouvelle vie, je veux tout prendre. Parce que comme dit Jonathan, vous avez toujours une espèce d'épée de Damoclès.
Bien sûr.
Moi, aujourd'hui, ça fait 18 ans que j'ai opéré.
Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 31 ans. Ah ouais. Et 32 ans la deuxième fois, et j'y pense encore.
Et vous êtes toujours encore...
J'ai un traitement à vie déjà, j'ai un apport hormonal.
On est marqué au fer rouge dans le bon et dans le mauvais sens, quoi.
On est marqué, et puis il y a aussi la question des injections qui reviennent régulièrement et qui rappellent à la maladie quand même. Ce n'est pas le cas de tous les hommes qui ont
Je ne peux pas l'oublier. Tous les 15 jours, on me donne un apport hormonal. Donc, je ne peux jamais oublier que j'ai eu un cancer.
Vous avez été très entouré, vous aussi?
Oui, très entouré. J'ai deux frères avec qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect.
Ils s'appellent comment?
David, et le plus vieux, et Anthony.
Ah, David et Anthony qui sont là?
Voilà, Frangin, un petit coucou. Toi, tu t'es battu, moi, je me suis battu. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent à survivre de cette maladie. Tu as été mon exemple pour me battre jusqu'au dernier moment. Tu es un exemple pour beaucoup de monde. Continue comme ça, lâche rien et surtout never give up. Et je t'embrasse fort, Frangin, à bientôt.
Salut Frangin, Sébastien, juste un petit coucou pour te dire qu'on est fiers de toi, de tout ce que tu as accompli. Et comme un vrai boxeur que tu es, tu t'es relevé, tu t'es battu et tu te bats encore. Sache que nous sommes tous fiers de toi, de ta vie, de ce que tu es devenu. Et continue comme ça et on t'aime.
C'est beaucoup, beaucoup de respect pour mes frères. Mon deuxième frère aussi a un cancer. On était là avec mon premier pour l'aider. Et puis, on est très, très proches, vraiment.
À David, vous ressemblez beaucoup. Hein.
Ouais.
C'est le même.
Tous les trois, on est vraiment très, très proches. Il ne se passe pas deux jours sans qu'on s'appelle, sans qu'on s'écrive. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de chance.
Ouais. Vous vous dites des « je t'aime » parfois?
Bien sûr, ça se dit. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne dit pas « je t'aime » à un autre homme. Parce que c'est vraiment, je vous dis, on a beaucoup de respect. Et je ne m'attendais pas du tout à cette vidéo, ça me touche beaucoup.
Oui, Sam, alors vous vous êtes reconnu dans quoi depuis tout à l'heure, de tout ce qu'on entend?
Alors l'attachement de Sébastien à sa barbe, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui faisait partie de mon identité.
Oui, vous aviez une barbe. Avant. On a des photos de vous avant et c'est vrai qu'on avait, vous aviez une barbe et une sacrée touffe de cheveux.
Oui.
Que vous allez retrouver, hein. Même si ça vous va bien, moi je trouve.
Merci.
Non, là, mais c'est vrai, ça ne va pas à tout le monde et je trouve que ça vous va bien. Hein.
J'ai remarqué que ça commençait à repousser, mais c'est juste le changement de chimio qui a eu lieu.
Oui.
Et donc, ça reste des petits poils du kiwi, on va dire.
Vous êtes en rémission du syndrome d'Hodgkin. C'est donc très récent. C'est une maladie qui touche les ganglions, principalement chez les hommes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre ces derniers mois, Wissam?
Alors, le plus dur, c'était surtout de me voir complètement se transformer en une personne qui est très faible. Avant, je menais une vie qui est très dynamique, très sportive, très à 100 à l'heure. Oui. Je sortais toujours à vélo, j'allais faire mes courses, j'ai fait le tour de Bretagne à vélo, par exemple. J'étais quelqu'un de très actif et puis depuis décembre, je ressens une fatigue incessante. Et donc, de voir cette transformation vers une personne qui est très faible, amaigri, pâle, dépourvu un peu de son identité visuelle, pas sportif. 5 minutes de marche, c'est déjà très, très fatigant. Donc ça, c'était très dur.
Ouais, c'est difficile. C'est fou, se perdre sa personnalité et qui on est, ne serait-ce qu'à travers, en effet, c'est sa barbe, ses cheveux, son physique. Hein. C'est quand, pareil pour les hommes.
Exactement. Là, il y a le changement d'apparence, il y a les mutilations aussi quand il y a des opérations. Et puis, il y a parfois le sentiment d'injustice quand on a vraiment pris soin de son corps, quand on est un sportif, ouais, quand on fait attention, parce qu'il y a quand même l'image que le cancer, des fois, on le mérite parce qu'on n'a pas pris soin de soi, on a eu une mauvaise hygiène de vie. Et là... ça pose encore plus de questions.
On va découvrir le sportif que vous étiez et que vous saurez rapidement, j'ai aucun doute, à travers cette image.
Je m'appelle Wissam et il y a encore quelques années, j'avais une vie bien rythmée. Je faisais beaucoup de sport, j'allais toujours plus loin pour dépasser mes limites. J'étais tellement passionné que j'en ai fait mon métier en devenant coach sportif afin de partager mon plaisir du sport avec les autres. Toujours à la recherche de nouvelles sensations, j'ai souvent enfilé mon sac à dos pour partir à l'aventure, seul ou accompagné de mes proches. J'avais de l'énergie à revendre. J'étais amoureux et envisageais l'avenir sereinement. Mais en décembre dernier, la vie a mis la leurre que je menais, a du jour au lendemain pris un tournant inattendu.
Ça vous rassure quand vous voyez Sébastien qui dit après maintenant, je croque la vie à pleines dents, je fonce. Vous qui étiez déjà un fonceur, un sportif, l'idée que ce Wissam d'après puisse avoir encore plus de niaque que celui d'avant.
Oh ben j'ai hâte. C'est déjà le cas, mais je n'ai pas toutes mes capacités physiques pour pouvoir faire tout ça. Mais ça viendra.
Ça a été quoi les premiers symptômes pour Wissam? De la fatigue, vous m'avez dit, mais après?
Beaucoup de fatigue en novembre. J'étais du coup coach sportif dans une salle de sport. Ouais. Ça se ressent tout de suite si on est fatigué. Ça se ressent, ça se voit qu'on n'arrive pas à faire comme avant. Et début décembre dernier, j'ai remarqué une douleur ici, au niveau de ma hanche. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait un peu trop de sport. Peut-être que ça me paraissait logique. Je consulte, je m'étire, je prends du repos. Ça ne s'arrange pas. J'essaye d'aménager un peu mon planning, de faire moins de sport, de faire plus de l'accueil. Ça ne s'arrange pas. Et les médecins ont pensé que c'était une fracture de fatigue au début. Une fracture de fatigue, ce n'est pas une fracture complète, c'est une fissure de l'os. Arrêt de travail pendant 6 semaines, 2 mois après le début des symptômes. Et bien ça ne s'arrangeait pas. J'avais de plus en plus de mal à marcher. Ils ont fait beaucoup de tests, pas de résultats. Bon, en tout cas, on va prendre des béquilles. On a pris des béquilles et je me suis reposé chez moi en attendant que ça parte. Quelques semaines plus tard, je vais aux urgences parce que j'ai remarqué que j'avais des sueurs nocturnes et puis les ganglions ici qui gonflaient. Et de plus en plus de mal à tendre ma jambe ou à me relever. Je vais aux urgences. Je vais aux urgences et là, je suis hospitalisé pendant 11 jours où ils vont me faire tout genre de tests possibles, toutes les prises de sang possibles. Et ce n'est qu'à la fin qu'on a vu quelque chose qui était atypique.
C'était quoi?
Quand on a fait une biopsie des ganglions et quand on a fait un TEP scanner qui nous permet de voir s'il y a un cancer. C'était la dernière hypothèse qu'ils ont posée sur la table. Et bien, c'était ça.
Il a été présent, votre compagnon, à cette époque-là?
Oui. Bon, il était présent. Il venait me rendre visite tous les jours à l'hôpital. Même si notre couple allait mal à cette époque-là, mais il était quand même présent pendant cette période d'incertitude et de questionnement. Ouais.
Parce que les traitements, c'était quoi les traitements qui ont été mis en place très rapidement?
Alors déjà, ils m'ont annoncé la maladie. Et puis, 2 jours après l'annonce de la maladie, j'avais déjà commencé la chimiothérapie. Parce que la maladie était très avancée, ouais, était stade 4.
Ah oui.
Et il y avait un peu partout, il y avait là, il y avait dans les poumons, il y avait dans le foie, il y avait dans la colonne vertébrale et la hanche, c'est ce qui m'empêchait de marcher. Et donc, on a commencé la chimiothérapie, ça s'est constitué de 6 cures, je crois. Les 2 premières, c'est assez intense, c'est vraiment la dose la plus élevée qu'ils peuvent mettre. Et puis, on passe à quelque chose de plus léger si jamais on est en rémission, ce qui est mon cas.
Parce que le syndrome de Hodgkin, c'est un cancer des ganglions. Hein.
C'est un cancer de ganglions,
ouais, exactement. Ils vous l'ont prononcé, ce mot cancer ?
Bah, ils ont dit lymphome de Hodgkin. Moi, je connaissais pas ce mot, lymphome. Je savais pas ce que c'était. J'ai dit, d'accord, donc comment est-ce que je vais vivre ? Est-ce que c'est grave ?
Ouais, c'est flou, hein ?
Ouais. Au début, je ne pouvais pas vraiment réagir. J'étais à l'hôpital, j'étais branché de partout. Et ils m'ont dit, on va commencer la chimiothérapie. Quand j'ai entendu chimiothérapie, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un cancer. D'accord, c'est un cancer du coup. On dit oui. La chimiothérapie, la première question que j'ai posée, est-ce que je vais perdre ma barbe ? Ils m'ont dit, c'est très probable. Et mes cheveux aussi ? Oui.
Ouais.
Et bah, après, bah, la sédentarité fait que je vais perdre aussi mon corps, mes muscles.
Ah, je vous confirme, vous avez quand même encore un beau corps de sportif. Hein.
Ah, merci. Merci. Pourtant, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du sport. Ouais. Mais bon, ça revient au fur et à mesure.
Parce que là, vous en êtes où ?
Là, je suis en rémission du coup de mon cancer. C'est fascinant de voir avant et après comment tout le noir qui était dedans a disparu. Quand j'ai vu ça, j'étais...
Mais alors, c'est quoi votre bras si aujourd'hui vous entrez en rémission ? Qu'est-ce que vous avez encore sur le bras ?
C'est là où je reçois du coup mon traitement.
Ah, donc vous êtes en rémission, mais vous avez toujours un traitement.
Exactement. Tous les 15 jours, je vais à l'hôpital pour recevoir
comme Sébastien,
mon traitement.
Voilà, c'est ça.
Pour mon traitement de chimiothérapie, justement.
Jonathan ?
Si je peux me permettre.
Oui.
Moi, j'ai eu une chambre, un cathéter que j'ai toujours actuellement, qui vont m'enlever dans les prochains mois. Pourquoi ils t'ont proposé de le mettre à ton bras plutôt que... Enfin, généralement, c'est plutôt ici, au niveau de...
C'est vrai que je ne sais pas.
Je sais pas.
Systématiquement, ils m'ont dit, on va faire un peak line. Ouais. Donc, c'est une sorte de tuyau qui va jusque là.
Oui, même principe chez moi, mais plutôt en dessous.
C'est pourquoi ou...
Oui, ça dépend du type de produit, de chimiothérapie. Okay. Mais c'est, en fait, les produits sont agressifs pour les veines, donc on ne peut pas les faire passer dans des petits vaisseaux. Donc, il faut mettre des dispositifs qui permettent d'accéder à des plus gros vaisseaux et de ne pas avoir à mettre des perfusions à chaque fois. Donc, c'est souvent ici, c'est parfois au niveau du bras.
D'accord.
Ouais, c'est ça, au début.
Ici au bras, oui.
C'est pas tellement le choix du patient, c'est plutôt la maladie et,
Les produits, c'est ce que vous disiez. Vous en êtes où sentimentalement, Wissam ?
Alors, comme le couple allait mal, je ne me suis pas senti complètement soutenu par mon conjoint, mon ex-conjoint. Et surtout parce que j'avais l'impression que sa vie continuait normalement, comme si de rien n'était. Donc, je me suis senti un peu délaissé et j'ai décidé de mettre fin au couple au début de la maladie. Par exemple, je souffrais avec les effets secondaires et lui, il était dehors en train de prendre l'apéro. Je me suis senti complètement
abandonné. Est-ce que la question de la virilité s'est posée aussi pour
vous ? C'est sûr, c'était la première chose que j'ai pensé parce que comme c'est un traitement très lourd, je savais que ma libido va être affectée. Je savais que je ne vais pas pouvoir avoir une vie intime avec lui comme avant. Donc la première chose qui me venait à la tête, je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'être égoïste et de le garder pour moi pendant la durée de ma maladie, alors que je ne peux rien lui donner sexuellement parlant. Même sur le plan sentimental, j'étais complètement concentré sur moi-même, en fait, que j'avais du mal à penser à quelqu'un d'autre. Et j'ai été traité d'égoïste, mais je me suis dit, c'est peut-être le bon moment d'être égoïste dans ma vie. Je me suis dit, si je ne pense pas à moi maintenant, il n'y aura pas d'autre moment qui mérite mon attention.
Alors, vous aussi, vous voulez partir au bout du monde, rencontrer plein d'autres hommes. Vous avez envie aussi de vous reconnecter à ces sensations-là ?
Absolument. Alors, je suis un amoureux de montagne. Donc, j'ai envie de faire le tour de Mont Blanc à la fin de la maladie, dès que je reprends un peu ma force. J'ai envie d'aller vivre à la montagne. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et que j'ai toujours dit, je vais rester un peu en ville, j'ai une situation stable, pourquoi pas, je vais rester, j'ai mon appartement, j'ai mon travail. En fin de compte, non, je veux réaliser mes rêves et je vais aller vivre où j'ai envie de vivre parce qu'à un certain moment, on ne sait pas. Le changement était tellement rapide qu'on peut perdre en fait, la vie en 24 heures, quoi. On peut partir.
Est-ce que vous préférez le Wissam d'aujourd'hui ? Je parle dans la tête pour l'instant.
Bien sûr, je me préfère toujours aujourd'hui qu'avant parce que je pense que chaque jour est une opportunité pour progresser, devenir une meilleure version de soi. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis aussi qui me soutiennent et qui sont là à mes côtés, à m'aider à confronter ça parce que c'est aussi dur pour les amis, c'est
bien
aussi
sûr.
Dur pour la famille. Bon, c'est vrai que c'est le plus dur, c'est sur moi, mais sans eux, je pense que je ne serais pas aussi fort.
La maladie est à chaque fois un déclic. On a l'impression que ça enlève la peur d'oser aussi. Alors, faut pas, je ne souhaite pas à tout le monde d'être malade pour connaître ça, mais néanmoins, il y a quelque chose de l'ordre de l'affranchissement des peurs, de... On accélère sa vie aussi un petit peu.
C'est-à-dire que c'est un peu les montagnes russes, effectivement. Alors, on passe par des émotions extrêmes et l'issue, elle est souvent de surmonter des grandes craintes qu'on peut avoir et de dépasser certaines limites, mais certains freins qu'on se met ou que la société nous met. Et puis, c'est aussi l'exemple que accepter d'être malade et d'avoir des soins, ce n'est pas être résigné. C'est-à-dire, voilà, il y a un temps où on m'impose ça et puis il y aura un temps où je vais... reprendre les choses en main et puis faire des choses, ça c'est important.
Absolument. C'est surtout aussi accepter l'amour des autres. Parce qu'au début, par exemple, quand mes amis prenaient soin de moi, je me suis senti gêné parce que j'étais complètement allongé, je ne pouvais rien faire, même descendre ma poubelle, je ne pouvais pas.
Oui, je comprends.
Et donc de les voir faire des tâches ménagères chez moi, c'était compliqué parce que ma famille n'est pas avec moi. Donc accepter l'amour des autres, accepter leur bienveillance, c'est très important. Ouais.
C'est un bon conseil aussi à donner. En effet, accepter l'aide. Accepter l'aide. Et ça aussi, ça remet tout en question. On arrive au terme de cette émission. J'ai été vraiment très, très touchée de ce message que vous avez envoyé. Si on devait le résumer, d'ailleurs, si je vous laissais à chacun le mot de la fin pour vous adresser peut-être à ceux qui nous regardent, vous auriez envie de leur dire quoi, Sébastien ?
La vie est belle. Il faut surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tout prendre de cette vie. Tout.
OK.
Jusqu'à la dernière seconde.
Vous, Jonathan ?
Ça rejoint un peu ce que Sébastien a dit, c'est vrai, c'est la vie est belle. Il faut profiter de chaque instant, chaque moment. Avant la maladie, je passais devant des fleurs, je passais, je ne m'arrêtais pas. Aujourd'hui, je m'arrête, je la regarde.
Et vous l'achetez pour Loïs.
C'est ça.
Ça, c'est important de le dire. J'espère que vous viendrez bientôt avec un bébé dans vos bras sur le plateau. Ah bah écoutez, avec plaisir. Et vous, Wissam, quel message de prévention aussi vous voulez donner ?
Alors, c'est surtout aussi par rapport à la masculinité, la virilité, j'ai envie de passer un message. Ce n'est pas juste lié à l'apparence. Oui, ça fait une grande partie de notre apparence, notre masculinité ou féminité, ou peu importe. Mais ça ne se réduit pas à l'apparence, c'est aussi le courage, c'est aussi la résilience, c'est aussi l'adaptation à la situation. On est malade, on accepte la maladie et on attend que ça passe. On le confronte avec courage. Je trouve que c'est ça aussi la masculinité.
T'as raison, ouais.
Vous êtes d'accord ?
J'adore cette conclusion. J'adore cette conclusion. Merci infiniment, vraiment. Merci Florian de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission, les retrouver ainsi que toutes les autres sur la plateforme France TV et puis en podcast également. On vous y retrouve, on vous suit partout. Je vous embrasse. Bon après-midi sur France.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes en couple depuis de longues années et vous avez trouvé le moyen de booster votre sexualité en étant très inventif. Vous rencontrez à l'inverse des difficultés dans votre vie sexuelle qui mettent votre couple à rude épreuve. Pour une autre émission, vous avez découvert le plaisir à plus de 50 ans et cette révélation sur le tard a changé votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
Super, nickel, c'était vraiment une belle expérience et merci pour l'opportunité de nous laisser la parole sur ces sujets qui sont tabous.
C'était super, je tiens à remercier Faustine, Alizé, Nour et Fanny, tout était vraiment millimétré, je les embrasse vraiment tous très fort.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.